Et cette semaine, dans votre magazine La Santé Zen, on va parler de l'hypnose. On va partir à la découverte de l'hypnose, plus précisément, et de ses bienfaits. Est-ce que l'hypnose pratiquée dans un cabinet est la même chose que l'hypnose de spectacle qu'on voit souvent à la télévision, par exemple? Est-ce que l'hypnose peut nous aider dans notre vie de tous les jours pour atteindre un mieux-être, réduire le stress, voire même soulager certaines pathologies? Bien, voici quelques questions auxquelles on va tenter de répondre cette semaine, donc, avec notre invité. Marie-Laure Boutry, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes praticienne en hypnose ericksonienne, certifiée par l'ARCHE, l'Académie pour la Recherche et la Connaissance en hypnose ericksonienne. Alors l'hypnose attire souvent la curiosité des gens, mais il y a aussi beaucoup de fausses idées qui circulent, je crois. Par exemple, est-ce qu'on dort? Est-ce qu'on garde sa volonté? Est-ce qu'on peut déjà répondre à ces quelques questions?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à l'hypnose. C'est des idées reçues qui sont véhiculées par l'hypnose de spectacle. Donc forcément, il suffit d'allumer sa télé pour tomber sur des shows télé, on va dire.
On voit par exemple Mesmer, pour parler du plus connu, très souvent.
Voilà, donc je citais pas de nom, mais puisque vous le faites. Donc effectivement, c'est assez impressionnant. On a l'impression que les personnes sont complètement déconnectées de la réalité. Alors évidemment, en cabinet, c'est pas du tout ce qu'on va chercher à faire. D'autant plus qu'il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à atteindre un état d'hypnose aussi profond. Dans la mesure où il y a à peu près entre 20 et 30% de la population réceptive à ce type d'hypnose, alors que l'hypnose pratiquée en cabinet, en fait, c'est juste une autre manière d'utiliser le cerveau. Et ça, a priori, tout le monde est capable de le faire.
Alors, j'ai parlé d'hypnose ericksonienne. Vous êtes praticienne en hypnose ericksonienne. Qu'est-ce qu'on entend par là?
Oui, alors justement, en fait, Erickson, c'est un psychiatre américain qui lui a découvert l'hypnose d'abord sous sa forme la plus pure, j'ai envie de dire, c'est-à-dire en pratiquant sur lui-même des méthodes d'auto-hypnose. Alors à l'époque, il était jeune, il a eu une attaque de polio quand il était adolescent, il s'est retrouvé alité sans pouvoir marcher. Donc il a passé de longues heures à observer autour de lui les mouvements de sa famille, les gestes, il s'est imaginé faire ces gestes. Il a fait fonctionner en fait son imaginaire pour restimuler c'est les neurones en fait qui permettent le geste. Et partant de là, il s'est remis à marcher.
Juste par l'imaginaire, au départ?
Par l'imaginaire, parce qu'en fait, c'est vrai qu'au niveau cérébral, en fait, le cerveau ne va pas faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. C'est pour ça que quand on rêve, par exemple, on peut avoir des rêves très, très, très réels, où on peut avoir le cœur qui bat plus vite, on peut se mettre à transpirer, on peut vraiment avoir, par exemple, l'impression de nager, avec cette sensation de flotter.
Ou de voler parfois aussi.
Ou de voler, c'est parfois même presque plus réel que la réalité. Donc du coup, c'est vraiment ça le principe de l'hypnose. Donc lui, en fait, il a, partant de son expérience à lui, il a modernisé l'hypnose qui au départ était directive pour en faire une hypnose non directive, où finalement c'est la personne qui va mobiliser ses propres ressources. Et donc la solution vient de la personne, elle n'est pas du tout imposée par celui qui manipule l'outil de l'hypnose.
Et lui, il a testé tout au long de sa carrière, en plus, il était psychiatre.
Effectivement, donc lui, il a développé une autre vision de l'hypnose, qui a même, au départ, pas été très bien accueillie. Et puis finalement, c'est lui qui a vraiment modernisé l'hypnose. Et les gens pouvaient faire des milliers de kilomètres pour venir en consultation.
Alors, on parlait d'hypnose directive, hypnose non directive, ça veut dire que l'hypnose de spectacle, elle, est directive, alors, si j'entends bien.
Oui, si je vous dis « faites la poule », je vous donne un ordre. Donc effectivement, c'est directif. Et bien sûr qu'en cabinet, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. De toute manière, même si une personne vient en disant « je veux avoir davantage confiance en moi », chaque personne a sa manière d'avoir confiance en elle. Donc c'est pas moi qui vais pouvoir lui dire « il faut faire comme ça », même avec l'état d'hypnose, ça ne fonctionnerait pas. Donc l'idée, ça va être que la personne trouve ses propres ingrédients pour se construire une confiance en elle solide et sur mesure pour elle, qui lui corresponde et qui lui permette de garder sa propre identité.
C'est intéressant finalement, vous parlez de ressources que chacun aurait au fond de soi.
Bah oui, c'est un peu comme si notre cerveau c'était une immense bibliothèque et puis qu'on avait oublié qu'on avait plein de livres en fait, plein de ressources, comme si chaque livre était une ressource. Et que parfois, il y a plein de capacités qu'on n'a pas conscience d'avoir et que l'hypnose peut venir réveiller.
Il suffirait de prendre un de ces livres sur la bibliothèque, alors.
Et puis d'en ranger certains.
Alors, vous parlez d'état d'hypnose, est-ce qu'on peut définir ce qui est vraiment l'état d'hypnose?
Alors, l'état d'hypnose, c'est pas un état qui est très facile à définir.
Est-ce qu'on dort, puisqu'on dit, on s'imagine ça parfois, ben oui, on va dormir, ou on voit ça dans les films, voilà, vos paupières sont lourdes, etc.
Alors, en fait, j'ai envie de dire que c'est pas évident à définir parce qu'il y a autant d'états d'hypnose que de personnes. Chacun a sa manière de le vivre. Donc, déjà, on dort pas. Ce qui donne l'illusion de dormir, c'est le fait que les personnes en état d'hypnose ont souvent les yeux fermés. Bien que ce soit pas indispensable, on pourrait très bien être en état d'hypnose les yeux ouverts, mais c'est vrai que la plupart du temps les gens ont les yeux fermés, donc de l'extérieur on a l'impression qu'elles dorment. En fait non, il y a au contraire une activité cérébrale qui est très forte, et aujourd'hui il y a des recherches qui ont été faites notamment aux États-Unis grâce à des travaux menés dans les hôpitaux qui montrent que lorsque l'état d'hypnose est là, ce sont des zones du cerveau différentes qui vont être activées. Donc ça va être les zones qui vont correspondre aux émotions, les zones qui vont correspondre au sensoriel, ce qui fait qu'on peut avoir des sensations en état d'hypnose, par exemple de fraîcheur, alors qu'il n'y a absolument pas de fraîcheur dans la pièce, ou de chaleur, alors qu'il n'y a pas de chaleur non plus. Les zones qui vont correspondre à tout ce qui est visuel, et puis à l'imaginaire. Donc en fait, l'état d'hypnose, ça va permettre d'utiliser certaines zones du cerveau qui ne sont pas accessibles dans un état de conscience normal.
C'est un état modifié de la conscience.
Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle d'état modifié de conscience, et l'intérêt d'atteindre cet état-là, lorsqu'on a une problématique, bah, ça va être de renouveler sa manière d'envisager cette problématique et de faire appel à d'autres facultés pour dépasser un problème en fait.
Alors, dans la Santé Zen, votre magazine Bien-être, Vie et Énergie, on parle de l'hypnose cette semaine, l'hypnose et ses bienfaits. Alors, Marie-Laure Boutry, vous qui êtes praticienne en hypnose ericksonienne ici à Grenoble, j'aimerais bien que vous nous parliez de vous, votre vision de l'hypnose en tant que praticienne.
Alors moi, ma vision de l'hypnose, c'est que toute séance d'hypnose commence par une rencontre, par un échange humain, où en tant que praticienne, je vais avoir la curiosité de découvrir l'autre. Avec une totale absence de jugement. Je vais juste m'intéresser en fait à la manière dont un problème a pu se mettre en place, et puis m'intéresser aussi aux solutions qui n'ont pas été productives pour essayer de guider la personne vers l'état d'hypnose qui va leur permettre de renouveler ou de modifier l'approche qu'elles peuvent avoir de leur problématique pour ouvrir plein de possibles. Donc du coup, dans un premier temps, ça va être un temps de discussion qui est même assez long. Alors parfois les personnes sont un petit peu étonnées d'avoir à parler, mais bon chaque...
Ils s'attendent à être dirigés finalement, c'est ce qu'on disait un peu au début, c'est l'imaginaire qu'ils ont de l'hypnose.
Voilà, alors qu'en fait c'est vrai que pour faire une séance d'hypnose efficace, il faut bien connaître l'autre, il faut définir un objectif, chaque séance a son objectif. Du coup parfois il faut quelques séances pour atteindre l'objectif principal parce qu'on va découper le travail en paliers. Voilà, donc après il y a l'état d'hypnose, il y a tout ce qu'on fait pendant l'état d'hypnose pour servir à l'objectif de la séance, où là évidemment c'est moi qui vais guider, mais toujours en m'appuyant sur l'imaginaire de l'autre, et c'est très interactif. Il peut arriver que les personnes parlent, il peut arriver aussi qu'on fasse les séances debout.
Oui, on n'est pas forcément allongé, ça on l'a pas dit.
Voilà, donc en fait la séance est assez dynamique. Et puis ensuite, moi ce que j'aime bien en fin de séance, c'est faire un petit débriefing avec la personne, savoir comment elle l'a vécu, et puis donner quelques outils d'auto-hypnose si la personne est demandeuse et volontaire.
C'est-à-dire ensuite pouvoir retrouver cet état-là et trouver notre propre solution par nous-mêmes.
Oui, parce qu'en fait...
C'est ça l'auto-hypnose ?
En fait, pour moi, le but de l'hypnose, c'est d'aider les personnes à être autonomes quelque part, à pas aller chercher des solutions à l'extérieur, mais à les trouver à l'intérieur d'elles. C'est vrai que dans l'idéal, si la personne peut continuer à utiliser l'hypnose avec l'auto-hypnose et pas forcément en séance, c'est très bien.
Alors justement, vous parlez de séances, combien de temps dure-t-elle? Est-ce qu'on part sur une série d'une séance par semaine pendant 6 mois, comme certaines pratiques?
Alors du coup, les séances, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie. Au niveau de la fréquence des séances, donc elles sont espacées d'environ 15 jours, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de connexions qui se font au niveau du cerveau, donc la séance elle va continuer à travailler, donc ça sert à rien de les rapprocher trop. Et puis après, quant au nombre de séances, c'est difficilement prévisible à l'avance, ça se réajuste avec chaque personne. Par contre, c'est vrai que c'est bien de prévoir au minimum 2 séances, et en général ça va être 2 à 5 séances pour voir un résultat.
Alors, est-ce qu'on peut définir un petit peu finalement les applications de l'hypnose qui sont les personnes qui viennent frapper à votre cabinet par exemple ?
Alors les personnes qui viennent frapper, ça peut être tout le monde, des enfants aux personnes âgées. Après, de manière assez générale, en fait, c'est quand quelque part on rencontre un blocage, une difficulté qu'on n'arrive pas à surmonter, qu'il peut y avoir cette impression d'être dans une impasse, de plus savoir par quel bout prendre une problématique.
Donc c'est pas seulement l'arrêt du tabac, on entend souvent parler de ça depuis quelques années, voilà, pour arrêter de fumer, eh bien, va voir un hypnothérapeute ou un praticien en hypnose.
Oui, alors l'arrêt du tabac, c'est une problématique comme une autre, hein, et c'est vrai que souvent on a l'impression d'être face à un mur, d'où l'intérêt de pratiquer, d'essayer des séances d'hypnose. Mais après, effectivement, il n'y a pas que ça. C'est vrai qu'il y a aussi le stress, tout ce qui va toucher à la confiance en soi, les problèmes d'anxiété, de sommeil, la préparation aux examens, au permis de conduire, la prise de parole en public. En fait, c'est vraiment au quotidien que l'hypnose peut être utile.
Même les problèmes de poids, je crois.
Et les problèmes de poids également, oui.
Alors, vous parlez du stress, j'entends. Ça me rappelle ce qu'on s'est dit dans une précédente émission. Il y a beaucoup de choses qui se rapprochent finalement de ce que vous nous racontez sur trouver des ressources en nous pour combattre certains problèmes. Et comme le stress, un peu le mal du siècle, hein, est-ce que l'hypnose, du coup, peut faire quelque chose pour le stress, le réduire peut-être ?
Oui, alors en fait l'hypnose est intéressante à plusieurs niveaux par rapport au stress. Alors il faut savoir que l'état d'hypnose en lui-même va diminuer le niveau du stress, il va diminuer la tension artérielle, il va y avoir une certaine détente qui va s'installer. Donc déjà rien qu'avec l'état d'hypnose, il y a un bagage, un anti-stress qui va se créer. Et puis ensuite, c'est vraiment préconisé parce que finalement, le stress, on a souvent l'impression qu'il vient de l'extérieur, alors que l'extérieur, on ne peut pas le changer, on peut difficilement agir dessus. En revanche, on peut agir sur notre manière de percevoir l'extérieur et du coup développer ses ressources, développer des outils, des petites stratégies pour que ce stress il puisse couler ou même être un moteur, mais en tout cas garder des proportions qui ne soient pas néfastes pour la personne.
Alors, on arrive bientôt au terme de l'émission. J'aimerais quand même que vous nous disiez, Marie-Laure Boutry, comment vous en êtes venue à pratiquer l'hypnose ?
Alors, moi, du coup, j'en suis venue à pratiquer l'hypnose suite à un problème de santé. Donc, j'ai d'abord découvert par rapport à la gestion de la douleur à l'hôpital. Et puis, un jour, le médecin m'a dit que par rapport à ces fameux problèmes de santé, il me fallait une vie sans stress. Donc c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu dépourvue, puis un petit peu d'incompréhension par rapport à cette préconisation qui n'était pas très concrète.
Oui, c'est facile de dire ça, mais après qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on fait pour lutter contre le stress, quoi ?
Voilà, donc après je me suis souvenue des séances que j'avais faites par rapport à la douleur avec l'hypnose et du coup j'ai fait beaucoup d'auto-hypnose sur moi. Jusqu'au moment où j'ai décidé de me former pour partager ça avec les personnes et qu'elles puissent elles aussi bénéficier de cet outil.
Alors vous nous parlez de partage, ça tombe bien, là on est au terme de l'émission, mais je crois qu'on on va vous retrouver dans ce magazine La Santé Zen dans des prochaines émissions, puisque il y a des points communs finalement avec d'autres pratiques qui mettent donc en lien finalement le corps et l'esprit, c'est un peu ça.
Oui, tout à fait. C'est vrai que souvent à travers une séance d'hypnose, on peut avoir l'impression de remettre du lien entre le corps et l'esprit, comme si les deux se remettaient à fonctionner ensemble. Et c'est vrai que c'est un constat qu'on peut observer dans beaucoup d'autres pratiques, comme par exemple le yoga, comme tout ce qui va toucher aussi à l'énergie, où on a une espèce d'impression de réharmonisation. Donc c'est vrai que je trouve toujours intéressant d'aller s'enrichir à travers d'autres pratiques et puis d'aller découvrir avec toujours cette curiosité, de s'ouvrir en fait à tout ce qui peut être bénéfique.
Mais voilà, donc des nouveaux rendez-vous et des belles rencontres à venir. Merci beaucoup Marie-Laure Boutry. Je rappelle donc que vous êtes praticienne en hypnose ericksonienne. On peut vous retrouver sur internet par exemple sur le www.hypnose-a avec un accent-grenoble.com. Et puis votre cabinet est situé au 53 cours Jean Jaurès à Grenoble. Merci beaucoup.
Merci.